justement aborder cette question de la mémoire, qui est quand même un enjeu important à la fois pour les Arméniens, pour l'identité arménienne, mais également dans les questions de géopolitique et de relations internationales. Mais tout d'abord, quelle place tient la mémoire dans la société arménienne aujourd'hui ?
La mémoire joue un rôle important parce que les Arméniens se sont fait, après l'extermination, ils ont été lâchés par tout le monde. Plus personne ne s'est occupé d'eux et ils n'existaient quasiment plus. Et d'ailleurs, leur bourreau pensait avoir réglé la question arménienne par l'extermination des Arméniens. La mémoire a joué pour des communautés en exil, finalement, le rôle de substitution à un État qu'ils n'ont jamais eu. Ils ont pu redresser la tête grâce aussi à la construction de cette mémoire. Et d'ailleurs, pour des peuples qui n'ont pas d'État, il n'y a pas d'histoire finalement officielle, et donc la mémoire joue ce rôle-là. Et la mémoire était importante chez les Arméniens. Ils ont passé aussi une grande partie de leur vie moderne à faire reconnaître leur mémoire dans l'espace public, dans les pays dans lesquels ils s'étaient installés. Hein, les pays d'ailleurs qui les avaient accueillis après le génocide. Mais personne ne parlait de leur histoire et ils étaient à la recherche de faire coïncider, on va dire, leur récit familial, ce qu'ils pouvaient dire à la maison, les histoires qu'ils pouvaient raconter sur les crimes qu'ils avaient vécus. Ils avaient la volonté de faire coïncider ce récit-là avec le récit de la société. Parce que personne ne savait ce qu'ils avaient vécu et d'ailleurs, ils avaient besoin de sortir de cette torpeur-là. Donc la mémoire a joué un rôle très important.
Et aujourd'hui, du coup, qu'est-ce qui reste ? Est-ce qu'on est toujours dans cette position-là ?
Mais le paradigme est en train de changer avec le centenaire du génocide. Il y a eu plusieurs générations. Il y a la génération qui a dû se reconstruire dans l'exil, réapprendre sa langue, puisque une partie culturelle non négligeable du peuple arménien avait quasiment disparu après le génocide. Il ne faut pas oublier que c'est trois quarts de la population de son foyer historique qui est exterminée. Et puis le reste, ce n'est que des survivants. Et qu'il y avait aussi une politique de négation de la culture arménienne assez forte dans l'Empire ottoman, notamment à la fin. Donc les premières générations ont dû recréer leur culture, réapprendre leur langue, réapprendre à lire leur alphabet. La deuxième génération a travaillé à faire reconnaître politiquement par les États occidentaux notamment le fait qu'il y avait bien eu un génocide en 1915. Et puis cette génération qui émerge aujourd'hui va devoir changer de paradigme parce qu'on voit se dessiner partout des demandes de restitution de biens qui ont été spoliés, une demande de voir enfin la justice pour le peuple arménien. Donc c'est l'actualité aujourd'hui.
Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que justement, je voulais vous faire écouter les propos de quelqu'un que vous connaissez bien, car il a écrit abondamment sur l'histoire et la mémoire du peuple arménien. Je veux parler justement de Gaït Minassian, journaliste au Monde et docteur en sociologie politique, qui a récemment publié chez CNRS Éditions « Arménien, le temps de la délivrance », dont je recommande d'ailleurs la lecture. Il était l'invité jeudi dernier d'Emmanuel Laurentin, toujours dans la fabrique de l'histoire. Écoutez ce qu'il dit à propos du débat entre histoire et mémoire.
Effectivement, je vois bien la difficulté de passer de l'une à l'autre. Mais je crois que c'est indispensable et c'est même salvateur pour tout le monde, notamment pour les premiers concernés, c'est-à-dire les Français d'origine arménienne ou les Arméniens en particulier. La mémoire, c'est une souffrance, la mémoire, c'est une domination, la mémoire, c'est une culpabilisation. Et l'histoire, c'est juste l'inverse. L'histoire, c'est une délivrance. L'histoire, il n'y a pas de pathos, l'histoire ne tremble pas. L'histoire décrit les faits tels qu'ils ont eu lieu et se transmet de manière scientifique, de manière, je dirais, rationnelle, cartésienne. Et les Arméniens sont confrontés à ce réel, à affronter aussi leur propre histoire. La mémoire a été pour eux une sorte de petit coussin, de confort, même si c'est terrible. Si les pages de l'histoire arménienne sont assez sombres, eh bien, cette mémoire était réconfortante. Et puis, petit à petit, grâce aux travaux des historiens, grâce aux sciences sociales, grâce à ces différentes historiographies qui se combinent, eh bien, petit à petit, il y a une sortie de la mémoire. Alors, c'est pas encore comme on peut l'espérer, mais c'est quand même bien enclenché. Et à côté de ces historiographies, il y a eu tout ce travail qui a été mené politiquement pour une reconnaissance du génocide et qui a porté aussi ses fruits. Et la conjonction des historiographies sur lesquelles on reviendra et les avancées politiques ont fait que les Arméniens, petit à petit, mais pas encore assez, se libèrent du poids de la mémoire.
On vient d'entendre ici les propos de Gaït Minassian, tenus jeudi dernier dans l'émission La Fabrique de l'Histoire d'Emmanuel Laurentin. Yerishé Gorizian, êtes-vous d'accord en quelques mots avec ces propos tenus par Gaït Minassian et voulez-vous réagir sur un point en particulier ?
Oui, je ne peux que souscrire à ce qu'il dit lorsqu'il parle de sortir du pathos. Bien évidemment qu'une mémoire d'un peuple ou d'une communauté en exil ne peut pas se construire uniquement par le pathos, et quand il parle de coussin mémoriel, je peux souscrire à cela. En réalité, lorsque la mémoire traumatique est reconnue par les autres, par un tiers, il y a une espèce de stagnation de la mémoire. On reste bloqué dans cette mémoire reconnue. Et on reste donc dans le trauma. Alors moi, j'irai un peu plus loin que ce qu'il dit. Je souscris à ce qu'il dit. L'histoire est beaucoup plus rationnelle que la mémoire et nous, elle nous intéresse davantage. Mais je pense que c'est plus que l'histoire qui a déjà, les historiens ont fait leur travail. Aujourd'hui, c'est la question de la justice qui peut en réalité libérer cette question-là, qui peut libérer le peuple arménien, non pas de son rôle seulement de victime, mais de peuple qui se conçoit comme une entité qui dépasse les individualités, les particularismes et qui peut se diriger vers une direction, un projet commun, un projet national.
Alors justement, vous qui êtes juriste, je le rappelle, vous préparez une thèse sur la réponse de la justice face aux victimes de crimes contre l'humanité. Je voudrais savoir que représente pour vous la question du génocide dans vos travaux et dans quelle perspective l'abordez-vous ?
Oui, alors, la question du génocide est une question, de manière générale, des crimes contre l'humanité, et particulièrement en ce qui concerne les Arméniens. Les Arméniens ont beaucoup apporté finalement à l'élaboration du droit international. Depuis le génocide des Arméniens, la communauté internationale se pose des questions. Comment pouvons-nous empêcher cela ? Comment pouvons-nous juger ceux qui ont fait cela ? Etc. Malheureusement, les Arméniens n'ont pas profité de cette justice internationale, mais cela appelle à un certain nombre de choses. C'est-à-dire, comment doivent réagir les États tiers, les États témoins de ce qui se passe ? Est-ce qu'ils peuvent réagir ? Est-ce qu'il y a un droit à agir ? Et la question s'est posée, y compris pendant les massacres, par exemple les massacres des années 1890 contre les Arméniens, les Russes et les Anglais se posent la question d'intervenir militairement pour sauver les Arméniens. C'est d'ailleurs le courant arménophile d'Anatole France et de Jaurès qui se pose aussi cette question-là. C'est la question de la justice internationale et la justice nationale, la lutte contre l'impunité des crimes. On se rappelle de la phrase d'Hitler en 1939, qui se souvient encore de l'extermination des Arméniens juste avant l'invasion de la Pologne, et on sait le commencement de la Shoah. C'est aussi comment reconstruit-on un pacte social entre les communautés lorsqu'il y a eu un crime contre l'humanité ? Comment on réhabilite la dignité humaine ? Comment peut-on mettre en place des processus qui vont réparer et restituer les gens dans leur dignité ? Donc voilà, c'est tout un tas de questions qui peuvent se résumer par Raphaël Lemkin, celui qui a inventé le mot génocide.
Et au lendemain de du massacre, du génocide des Juifs, donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale,
oui,
la juridiction de Nuremberg.
Voilà. Raphaël Lemkin crée ce concept de génocide à peu près en 1944, c'est un grand juriste. Mais en réalité, il parle de ce crime contre l'humanité, de crimes contre l'humanité et de cette même infraction qu'il est en train de créer dès 1919. Et en réalité, cela va faire un déclic chez lui en 1921. En 1921, Talat Pacha, que vous citez, est en promenade à Berlin, où il vit, grand train d'ailleurs, avec l'argent en partie volé aux Arméniens. C'est l'un des principaux instigateurs du génocide des Arméniens. Un Arménien l'assassine, Soroman Telerian. Il est jugé pour l'assassinat de Talat Pacha, et un étudiant en droit, qui s'appelle Raphaël Lemkin, suit les actes du procès. Et manifeste son étonnement, il est interloqué, il dit « Je fus choqué, une nation était assassinée et les coupables mis en liberté. Pourquoi un homme est-il puni quand il en tue un autre ? Pourquoi le meurtre d'un million d'hommes est-il un crime moins grand que d'en tuer un seul ?» Donc c'est toute la question. Nous avons les armes juridiques pour lutter contre les plus petits des criminels. Comment fait-on pour s'en prendre aux plus grands des criminels ? Eh bien, c'est toute l'élaboration du droit international de prévention des crimes contre l'humanité.
Alors, dernière question, Yerishé Gorizian, question d'actualité assez récente, puisque je veux vous parler de la déclaration du pape François Ier, qui a reconnu la semaine dernière l'existence du génocide des Arméniens. Selon vous, est-ce que cette déclaration va avoir des effets, soit sur la position turque, soit en termes de crédibilité, même si le génocide arménien n'est plus approuvé, est accepté, et même pas une question d'acceptation, est reconnu par l'ensemble des grandes puissances, et même l'ensemble des pays aujourd'hui aujourd'hui.
Oui, c'est un génocide qui est reconnu par une quarantaine d'États, par des proclamations et des lois officielles, par une sous-commission des droits de l'homme, la sous-commission des droits de l'homme des Nations Unies, par le Conseil de l'Europe, le Parlement européen plusieurs fois, par la France, par une trentaine des États américains. Donc oui, non, et puis l'Association internationale des chercheurs sur les génocides. Donc voilà, c'est plus un génocide donc, qui fait question, qui fait débat, scientifiquement parlant. La reconnaissance du pape a de l'intérêt. Elle a de l'intérêt parce que les archives du Vatican, dès les années 20, on s'est rendu compte qu'elles étaient extrêmement fournies en preuve du génocide, même si elles sont restées secrètes jusqu'à peu près 2011, et puis elles ont été un petit peu plus ouvertes encore aujourd'hui. La déclaration du pape a du sens pour mettre la pression au gouvernement turc en lui disant « Maintenant, c'est à vous de faire le travail pour restituer ce que vous avez pris aux Arméniens et réparer le crime que vous avez commis. » Mais en réalité, cette déclaration ne doit pas, doit plus inquiéter la Turquie, enfin, doit plus mettre la pression sur la Turquie que contenter les Arméniens. Les Arméniens, à mon sens, ne doivent pas se contenter d'une reconnaissance 100 ans après, faite par un chef d'État aussi important que le pape, certes, mais les Arméniens ne sont pas en quête d'une reconnaissance supplémentaire par un chef d'État donné, ou du moins ils ne devraient pas se contenter de cela. Je crois que c'est important plus pour la Turquie que pour les Arméniens.
Yerishe Gorizian, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation au micro de Transistor pour cette date très importante pour nous tous.
Merci de votre invitation et bon courage dans vos travaux futurs.
La grande histoire étant universelle, je me permets de nous joindre à vous pour cette commémoration du centenaire du premier génocide du XXe siècle. Car ne l'oublions pas, toute scarification d'un peuple, quel qu'il soit, est toujours une amputation pour l'humanité entière. Cela vaut pour hier comme pour aujourd'hui. Je tiens à remercier toute l'équipe de la Fabrique de l'Histoire pour ses émissions et ses enregistrements tout simplement géniaux, dont nous nous sommes bien servis, je dois vous le concéder, chers auditeurs. Je tiens également à remercier Gaïd Sminassian, sans qui cette émission n'aurait pas été possible. Pour ma part, je rends l'antenne sur cette belle pièce d'Aram Khachaturian, compositeur arménien de la période soviétique, que vous connaissez tous, oui oui, chers auditeurs, pour sa fameuse danse du sabre. Je vous assure et je vous laisse même aller vérifier. Il s'agit d'une autre pièce, c'est un ballet. Un ballet nommé Spartacus, et nous écoutons ici l'adagio de Spartacus et Phrygien. À bientôt, chers auditeurs, toujours sur Transistor.